Chapitre 63.
Ça va, papa ? S'inquiéta Jérémie.
Sébastien répondit d'un clin d'œil rassurant, mais son fils ne fut pas dupe. Son père était en nage, tremblant de fièvre, le cou et le visage recouverts de plaques rouges. Il crapahutait depuis 2 heures. Armés chacun d'une machette, 2 guerrieros s'ouvraient le passage tandis que le troisième tenait en joue les prisonniers. Nikki fermait la marche sous la menace de Flavia. Elle avait communiqué à la jeune narco de nouvelles coordonnées immédiatement entrées dans un récepteur GPS portatif. Elle profitait de sa proximité avec Flavia pour jeter de nombreux coups d'œil au récepteur et suivre ainsi la progression du groupe à l'écran. D'après la carte qu'elle avait étudiée dans l'avion, de nombreux kilomètres les séparaient encore de la carcasse du DC-3. À présent, ils étaient loin de toute civilisation, perdus dans un labyrinthe dense et végétal. Le danger était partout. Il fallait éviter les troncs, les racines, les trous d'eau, échapper aux serpents et aux tarentules, endurer la fatigue, la chaleur, les hordes de moustiques qui attaquaient même à travers les vêtements. Plus ils progressaient, plus la végétation se faisait hostile, épaisse, collante. Comme dans une marmite dantesque, la forêt frémissait, bouillonnait, bruissait de 1000 souffles. L'air était saturé d'une odeur tiédasse où palpitaient des parfums oppressants de terre fermentée. Alors qu'ils traversaient un tunnel de branchages, une brusque averse tropicale s'abattit sur la jungle, mais Flavia refusa de s'arrêter. La pluie dura 20 minutes, gorgeant le sol d'eau et rendant leur progression plus difficile encore. Ils firent une pause à midi, après 5 heures de marche. Sébastien vacilla et crut qu'il allait s'évanouir. L'humidité saturait tout. Combinée à la fièvre, elle le faisait suffoquer. Il avait bu toute son eau et mourait de soif. Camille s'en aperçut et lui tendit sa gourde, mais il la refusa. Il s'appuya contre un tronc, puis leva la tête pour regarder la cime des arbres qui culminaient à plus de 40 mètres. Dans son délire, les trouées de ciel lui paraissaient apaisantes, des lambeaux lointains de paradis. Soudain, il sentit une vive démangeaison. Une colonie de fourmis rouges grimpait le long de son bras, s'infiltrant dans la manche de sa chemise. Il essaya de s'en débarrasser en se frottant à l'arbre. Les minuscules insectes s'écrasaient sous la pression en un liquide érubescent. Un des gardes du corps se porta à son niveau et leva son coupe-coupe. Sébastien, pris de panique, se recroquevilla sur lui-même. L'homme abattit sa lame contre l'arbre et indiqua à Sébastien d'en goûter la sève. Le tronc saignait un liquide blanc et visqueux qui avait un goût de lait végétal proche de la noix de coco. Le gorille coupa ses liens pour lui permettre de remplir sa gourde. Ils marchèrent encore 1 heure avant d'atteindre le point que Memphis Decker avait indiqué sur la carte. Rien. Rien de particulier à cet endroit. Juste un enchevêtrement végétal. Des nuances de vert qui se multipliaient à l'infini.
« Voici à chaque et au chômou idiota !»
cria Flavia.
« Il devrait y avoir une rivière !» se défendit Nikki.
Inquiète, l'Américaine vérifia les coordonnées sur l'écran du GPS. Le récepteur haute sensibilité fonctionnait même sous les arbres. Un voyant indiquait que la réception satellite était bonne. D'où venait le problème alors? Elle scruta le paysage qui l'entourait. Des oiseaux bleus au plumage fourni jacassaient comme des perroquets. Un groupe de paresseux cherchait des branches ensoleillées pour sécher leur toison après la pluie.
Soudain, Nikki pointa un tronc marqué d'une flèche. Pour retrouver son chemin, Memphis avait taillé l'arbre à la machette.
Flavia ordonna au groupe de changer de direction. Ils marchèrent encore 10 minutes avant de déboucher sur un cours d'eau boueux. Malgré la saison sèche, le niveau de la rivière n'était pas suffisamment bas pour pouvoir la traverser à pied. Ils longèrent le cours d'eau en remontant vers le nord tout en guettant les caïmans immobiles qui flottaient, alanguis à la surface. Bien que les berges soient broussailleuses, le terrain était beaucoup plus dégagé que ce qu'ils avaient connu jusqu'ici, ce qui facilita leur progression jusqu'à un pont suspendu. De grosses lianes étaient attachées entre elles dans un entrelacs arrimé aux branches des arbres. Qui avait construit ce pont? Memphis? C'était peu probable, car l'ouvrage avait dû demander du temps. Peut-être des Indiens. Flavia fut la première à s'élancer sur le tablier de la passerelle, puis, tour à tour, les autres membres du groupe la franchirent prudemment. Le pont vacillait à 10 mètres au-dessus de la rivière. À chaque passage, le fragile édifice craquait davantage, menaçant de s'effondrer. Après cet obstacle, Ils marchèrent encore plus d'une heure, s'enfonçant à nouveau dans la forêt d'émeraude jusqu'à atteindre une nouvelle trouée de lumière, un des rares endroits de la jungle suffisamment découvert pour permettre aux rayons du soleil de réchauffer le sol. « C'est ici !» annonça Nicky. « D'après la carte, la carcasse du DC-3 se trouve à moins de 300 mètres de la clairière en remontant vers le nord-est.
« Shiga Sheta !»
cria l'un des guerrieros en désignant un nouvel arbre gravé d'une flèche.
« Vamos con cuidado !»
recommanda Flavia en sortant son Glock. Il paraissait peu probable que le lieu soit truffé de policiers, mais depuis l'arrestation de son père, elle vivait dans la paranoïa. Elle prit la tête du cortège, recommandant la plus grande prudence à ses hommes. Sébastien eut de la difficulté à faire les quelques mètres restants. Il avait les yeux collants et saignait du nez. Secoué de tremblements proches du malaise, il transpirait par tous les pores. Cette fois, la migraine qui lui vrillait le crâne lui fit lâcher prise. Au bord de la rupture, il tomba à genoux.
« Levantez-se !»
hurla un des hommes en se portant à sa hauteur. Sébastien essuya la sueur sur son visage et se releva avec peine. Il but quelques gorgées à sa gourde, cherchant du regard Nicky et ses deux enfants. Les images se brouillaient, mais il put distinguer les membres de sa famille serrés les uns contre les autres, toujours sous la menace des gardes du corps de Flavia. Alors que Jérémy adressait un petit signe à son père, il fut ébloui par un éclat de lumière. Un objet à moitié enfoui sous les broussailles brillait de mille feux. Discrètement, l'adolescent le ramassa malgré ses deux poignets entravés. C'était un briquet tempête en or blanc gainé de cuir. En examinant le boîtier, il remarqua les initiales LS entrelacées sur le chapeau argenté. Lorenzo Santos. C'était le briquet que sa mère avait offert à Santos. Il le glissa dans sa poche en se demandant comment il avait pu atterrir en pleine jungle. Puis le groupe reprit sa marche en avant, se coulant dans le sentier que Memphis Decker avait sommairement dégagé quelques semaines plus tôt. Au bout de 10 minutes de marche, Flavia donna un nouveau coup de machette puis écarta une dernière branche. La carcasse de l'avion s'étendait devant eux, énorme, saisissante, effroyable.